Bonsoir. Merci d'être venu écouter Ividor, qui va nous parler donc de son livre intitulé « Famille entre deux cultures, dynamique relationnelle et prise en charge systémique ». Je vais d'abord présenter Ivy, vous la situer un petit peu, savoir que Ivy est docteur en psychologie, elle est psychologue clinicienne, elle est thérapeute familiale, elle est systémicienne, elle enseigne à l'université de Bordeaux 2, elle est aussi chargée de cours à l'université de Toulouse, mais en plus, elle travaille dans, elle enseigne aussi à l'Institut d'études systémiques et elle intervient donc comme superviseur dans différentes institutions sur Bordeaux. Voilà. Et puis elle écrit cet ouvrage donc dont nous allons parler. Un ouvrage qui porte sur des thèmes extrêmement banals, la famille. Bon. Extrêmement banal, la migration. Ben oui, la migration, c'est extrêmement banal, ça existe de toute éternité. Et puis en même temps, elle va nous obliger à réfléchir à certains clichés que l'on a, point de vue social, d'un point de vue psychologique aussi, et à savoir on a tendance à penser, et donc l'ouvrage va nous apporter bien sûr notre point de vue, tendance à penser que la migration, dans la migration, ce qui importe, c'est l'adaptation, certes, l'intégration, et on entend souvent cela par assimilation, et que ce qui va être très important, c'est que la personne migrante s'installe tant et si bien en terre de migration qu'elle en perde tous ses ancrages antérieurs, toutes ses origines. Et ces questions-là, donc ancrage antérieur, relations familiales, relations dimension linguistique, etc., etc., eh bien, cela est réinterrogé justement par le travail que Ividor a conduit, un travail donc de recherche, on va en reparler plus précisément, et un travail donc où elle a rassemblé des données auprès de personnes et de familles migrantes. Donc elle tord le cou à ce cliché hein, d'un bon migrant, c'est un migrant qu'on ne voit plus, hein, qui n'a plus rien à dire, c'est surtout ça. Donc on va parler de cela. Et première question donc que je vais poser à Ivy, à savoir la problématique de la migration, c'est la problématique donc d'une personne, d'un adulte, d'un enfant, d'un adolescent, donc une problématique de plusieurs générations, et là-dessus je pense que Ivy aura à nous expliquer un petit peu cette importance de tenir compte de la profondeur générationnelle. Et cette problématique va être peut-être interrogée par la clinique systémique. Alors j'aimerais bien qu'elle nous explique mieux, plus.
Bon, merci à toutes et à tous d'être là. Merci à toi Odile d'avoir accepté d'être là avec moi. Présenter ce livre. Oui, effectivement, bon, la question de la migration, elle est très, très importante, je pense, dans le quotidien, dans notre quotidien à tous, finalement. Quand j'ai écrit ce livre, les retours que je pouvais avoir, c'était quand même que, finalement, même les personnes qui n'ont pas vécu eux-mêmes une migration, ils étaient interpellés par, dans leur quotidien, des personnes autour d'eux qui avaient vécu un événement migratoire. Mais c'est vrai que cette préoccupation, elle naît dans mon travail de clinicienne, puisque je suis toujours, quand je suis en consultation, dans une situation d'interculturalité, puisque je suis souvent avec des patients d'origine française, en consultation, et même d'autres origines, mais peu de Brésiliens, et je suis brésilienne, donc... Cette question, elle apparaît pour moi tout de suite, ce qui est quand même assez étrange, parce que quand on travaille avec des patients, donc avec des personnes, avec des sujets, soit individuels, soit dans leur contexte familial ou de couple, on est quand même confronté à un sujet complexe dans toute sa complexité. La culture, elle fait partie de cette complexité-là. Et j'étais très touchée, très, très interpellée par le fait que dans les thérapies systémiques, donc je veux dire un petit mot, qu'est-ce que c'est les thérapies systémiques, mais on était très préoccupés par le contexte, par l'environnement familial dans lequel le sujet évolue, mais très peu préoccupés par la question de la culture. Or, pour moi, la culture fait partie du contexte. Donc l'approche systémique, c'est un courant en psychologie. Donc il y a plusieurs courants en psychologie. La psychanalyse, sans doute, vous avez déjà entendu parler. Les thérapies cognitives comportementales. Et parmi d'autres, la thérapie psychodynamique, l'approche systémique, qui va appréhender le sujet dans ses relations. Voilà, dans ses relations familiales. Dans la famille, disons, nucléaire, donc cette première famille, c'est-à-dire qu'il construit entre, disons, les parents, ses frères et sœurs, mais aussi préoccupé par la famille élargie, c'est-à-dire les relations avec les enfants et les grands-parents, voilà, au moins sur 3 générations. Et donc, dans l'approche systémique, on est vraiment très intéressé par le contexte dans lequel évolue le sujet. Et cette préoccupation par rapport à la culture, j'ai repéré très peu dans les travaux que j'ai pu lire, dans les livres que j'ai pu lire. Alors, ce que j'ai appelé après dans ce livre le paradoxe systémique, parce que quand on est si préoccupé par le contexte, si préoccupé par l'environnement et si peu préoccupé par la culture, il y a quand même quelque chose d'étrange. Alors, c'est vrai que quand on parle l'importance de la culture dans le suivi des sujets ou même dans la façon d'être, pour moi, la migration est un événement qui impacte les familles sur plusieurs générations. Donc, il n'est pas question que de migrants, c'est-à-dire que de celui qui a fait le voyage migratoire, mais il est question des enfants de migrants, des petits-enfants de migrants. Et on va observer comment, selon chaque place, selon chaque époque, d'une histoire familiale, chacun va s'approprier de cette question de la culture de façon différente. Peut-être quelquefois des petits-enfants qui récupèrent des choses. Là, je pense à une jeune fille que j'ai vue encore la semaine dernière, qui a 12 ans et qui vient en thérapie pour des questions qui n'ont rien à voir avec la culture. Ben, c'est rare que les gens viennent en thérapie, surtout dans mes consultations, soit dans la consultation privée que j'anime, soit dans les consultations associatives de l'Institut d'études systémiques. C'est rare que les gens viennent en disant « j'ai un problème culturel, j'ai un problème avec ma culture et j'ai du mal ». Ça, peut-être cette demande, elle est plus présente dans les consultations interculturelles, parce qu'à Bordeaux, il existe des consultations interculturelles, donc où cette question, la culture, est bien plus affichée comme ça. Et donc, cette petite fille, cette jeune fille qui a 12 ans vient en consultation pour des problèmes avec ses parents, des séparations et tout ça. Et elle m'explique à un moment donné qu'elle s'était fâchée avec son papa et qu'elle a pris le drapeau espagnol et qu'elle s'est couverte avec son drapeau espagnol dans sa chambre. Et j'ai dit, mais le drapeau espagnol, mais pourquoi le drapeau espagnol? Vous êtes espagnol? Elle dit, bah oui, je suis espagnol. Je vous ai pas dit non, non, vous m'avez pas dit. Je suis espagnol. Je dis, mais vous êtes né en Espagne, expliquez-moi comment vous êtes espagnol. Elle dit, non, mon grand-père est espagnol. Ma mère est née ici, mon père est né ici. Moi, je suis née ici, mais je suis espagnol. Et donc, j'ai mon drapeau espagnol. Je trouve ça très intéressant parce qu'on pourrait penser, bon, petite fille d'Espagnol, ses parents sont nés ici, elle est née ici. Si on est dans cette logique, la migration est un événement qui arrive dans la vie des gens et qui passe, on ne peut pas entendre ça. Or, je pense que la migration est un événement qui arrive dans la vie des gens et qui reste pendant longtemps. Je ne sais pas si je continue dans cette idée. Tu veux me poser une autre question, peut-être ?
Oui, enfin, rebondir sur cette idée, hein, cette idée de, que la migration, c'est une, une profonde et vaste aventure qui suppose une sorte de bifurcation dans la vie d'un sujet. Hein. Donc, il y a un avant, il y a un après, et qu'il est important, quand on est dans cette période de post-migratoire, enfin du moins de l'acte, de la démarche migratoire, du déplacement migratoire plus précisément, eh bien, en effet, la mémoire reste inscrite dans cette histoire passée, et proche ou lointaine, justement. Et donc, justement, tu travailles sur cette question de la mémoire, et c'est un aspect...
La mémoire et la transmission entre parents et enfants. Alors, c'est vrai que quand on parle de la question de la culture, dans les prises en charge, en général, chez des psys ou d'autres professionnels, je vois, orthophonistes, ergothérapeutes et tout ça. Alors, c'est vrai que ça paraît une évidence, en fait. Ça paraît une grande évidence que la question de la culture, c'est sûr que c'est très important, mais c'est étonnant comment nous, en tant que professionnels, on contourne cette question, peut-être parce qu'on n'est pas à l'aise avec cette idée de questionner l'autre sur ses origines, comme si ça pouvait être quelque chose de politiquement pas très correct, ou que ça pourrait signifier qu'on marque une différence entre nous et eux. Or, quelquefois, j'ai quand même l'impression que quand on ne reconnaît pas l'autre dans ce qu'il est, quand on fait comme si on ne voyait pas cette chose qui nous gêne un peu, c'est beaucoup plus compliqué parce que ça renvoie aux personnes qui sont face à nous quelque chose de l'impensable du thérapeute. C'est-à-dire que ce n'est pas pensable pour lui, donc ça ne doit pas être pensable pour moi et c'est un espace où je ne pourrais pas aborder cette question-là. Et ça, c'est très important, je pense, quand il s'agit aussi de la question de la culture, mais bon, d'autres aspects. Et c'est vrai que la possibilité de parler de la question culturelle, c'est aussi la possibilité de faire apparaître à l'intérieur des familles une parole autour de cette culture-là. Et donc, du coup, la question de la transmission, parce que je pense que ça va être la clé dans le processus de double appartenance, en fait. C'est-à-dire de penser qu'on peut... transmettre, qu'on a l'autorisation de transmettre. C'est quelque chose qui va donner aux parents migrants une place plus importante dans le quotidien de leur... auprès de leur famille, de leurs enfants.
Alors j'aimerais que tu reviennes sur un point, parce que tu dis la culture, ce qui me semble une facette, ou enfin une composante plutôt très importante. Mais il y a autre chose aussi dans l'histoire, dans cette mémoire, dans cette histoire que les parents sont susceptibles de transmettre aux enfants. C'est la culture, c'est le rapport à la, c'est la famille, c'est aussi ce périple migratoire, c'est tout ça aussi. Ouais. C'est pas que de la culture.
Non. Alors, la transmission culturelle va être quelque chose qui est lié justement à parler la langue d'origine. Quand on parle comme ça, ça fait très abstrait, la transmission culturelle. En même temps, dans mon travail de thèse et même auprès des familles, le travail auprès des familles, je me appuyais sur des choses très pragmatiques, en fait. Quelle musique vous écoutez, qu'est-ce que vous avez lu, qu'est-ce que vous mangez chez vous, enfin, sur des choses qui sont liées à la transmission culturelle, mais qui ne sont pas forcément une transmission qui est voulue, bien sûr, enfin... où il y a une intention de transmettre, mais qui quelquefois pourrait passer inaperçu, en fait. Que les gens, ils pourraient se dire, mais de toute façon, chez nous, je sais faire que cette cuisine-là, j'ai fait la cuisine de mon pays, donc c'est une évidence qu'on mange la cuisine de mon pays. C'est important de se dire que dans ce processus-là, je crois que ce qui va être le plus positif pour le sujet, c'est justement cette transmission voulue. C'est-à-dire quand le parent a l'intention de transmettre, ça veut dire qu'il a compris que ce qu'il a à transmettre est valorisant, valorisé, et qui peut être un atout pour son enfant. Et donc pour ça, il faut déjà qu'il ait cette reconnaissance de ce que j'ai à transmettre est bon pour mon enfant. Si on est dans une logique où on se dit ce que j'ai à transmettre n'est peut-être pas très valorisé dans le pays d'accueil, c'est-à-dire là où on évolue, là où on vit aujourd'hui, ce que j'ai à transmettre ne va pas forcément être aidant pour lui dans sa vie au quotidien, bah, les parents, ils ne veulent pas transmettre des choses pas bonnes, enfin, qu'ils imaginent pas positive, qui ne va pas être un atout pour leur enfant. Et alors, la transmission qui va se passer, c'est la transmission involontaire, en fait, ce qui va être plus la transmission qui, de la souffrance, un peu, la transmission qui transpire, qui, on n'aurait pas aimé qu'il sache, mais finalement, ils finissent par savoir, par comprendre qu'il y a quelque chose de douloureux, de difficile. Donc, c'est vrai que je vais surtout travailler, l'idée c'est de la valorisation de cette culture, parce que je pense aussi que c'est, ça va permettre, pas forcément aux migrants, hein, ceux qui ont fait le voyage migratoire, mais aux enfants de migrants, de se retrouver dans un espace entre ces deux cultures. Parce que moi je dis souvent que je pense que le migrant, il sait d'où il vient, surtout quand on a migré adulte, c'est-à-dire quand on a fait ce voyage, entre plein de guillemets, ce choix, avec plein de guillemets, hein, je ne sais pas combien, vous mettez combien vous voulez, moi j'en mets plein. Donc on sait, on a encore le souvenir des odeurs, des goûts, des saveurs, des relations, des échanges, des lieux, de tout ce qu'on a connu d'une langue chez soi. Quand on vient ici, on se dit ailleurs, la France, puisque c'est depuis ici que j'ai fait ce travail, on se dit, voilà, je suis là, je sais que je ne suis pas français, je sais que je viens d'ailleurs, je ne suis pas français. Sauf que les enfants qui n'ont pas vécu le voyage migratoire, qui sont nés en terre d'accueil, eux, ils ont une assise identitaire beaucoup moins forte que celle des parents qui se disent, nous, on vient de tel endroit. Et c'est eux qui sont, à mon sens, le plus en difficulté, parce qu'ils se disent « je suis née en France, mais je pense à un monsieur qui me parlait de ça, je suis née en France, mais je suis français, je suis née en France, je vis comme un français, la seule chose que j'ai qui n'est pas français, c'est le sang qui coule dans mes veines. » Le sang qui coule dans mes veines, c'est pas rien, c'est quand même beaucoup. Alors, lui, il mettait ça comme dans rien, hein, mais bon... Je suis psychologue, donc je m'occupe des mots. Les mots m'intéressent. Donc, quand quelqu'un me dit « c'est rien du tout, c'est juste le sang qui coule dans mes veines », je dis que le sang qui coule dans mes veines, c'est de la vie. Donc, je n'ai rien, parce que c'était un monsieur italien, je n'ai rien d'italien. Je suis née ici, j'ai la nationalité française, je n'ai pas la nationalité italienne, j'ai vécu comme un français, je suis mariée à une française. Donc, il m'a prouvé par toutes les choses... tous les arguments qu'il pouvait avoir, qu'il était né ici, qu'il était d'ici, qu'il était français. Et à la fin, il me dit, mais la seule chose que j'ai de qui n'est pas d'ici, c'est le sang qui coule dans mes veines. Et j'ai trouvé ça très, très intéressant. C'est-à-dire que malgré tout l'effort pour dire je suis d'ici, il y a quand même quelque chose en moi qui je ne peux pas sortir de moi, qui a quand même cette appartenance et comment j'ai fait avec. Parce que l'idée, c'est... À partir du moment où on fait ce constat, c'est comment on fait avec. Et je pense que ça peut être très, très intéressant.
Et donc, dans ces situations de rencontres alors psychothérapeutiques ou d'autres types de rencontres, apparaît donc cette mémoire, dans le meilleur des cas. Parce que aussi, parfois, ou trop souvent, les parents se taisent. Donc, tu notais un peu... se taisent souvent parce que, alors je vais lire une phrase de ton livre, « Pour certains, la rupture provoquée par l'événement migratoire est si douloureuse que la rencontre, même des années plus tard, peut représenter un danger pour le moi, comme s'il y avait un arrêt sur image, préservant les impressions liées à ce vécu, avec impossibilité de le dire, donc de le transformer. » Ce moment paraît avoir été figé, mis entre parenthèses, sans retouche ni réélaboration et conservant la même puissance. Ces migrants ne peuvent pas évoquer leur expérience migratoire etc., etc. Voilà.
Oui, c'est vrai. Enfin, je pense vraiment ça, je l'écris même. Non, je pense vraiment ça. Je crois quand même qu'il y a cette idée que... Il y a presque quelque chose qui s'auto-alimente, en fait. C'est-à-dire que moins on peut parler, plus on a l'impression qu'on ne peut pas parler, qui c'est quelque chose d'insupportable pour l'autre, d'insupportable pour nous, plus ça devient effectivement quelque chose d'insurmontable à la fin. C'est-à-dire que plus on se dit « je ne peux pas infliger à mes enfants cette douleur, cette souffrance », plus on laisse transparaître, on laisse comprendre quelque chose aux enfants qui sont très perspicaces, qui sont très forts à ça, qu'il y a là quelque chose qui n'est pas dissible. Et donc je crois que ça, là aussi, ça a un impact sur les relations. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être tranquille, détendu dans notre position de parent, dans notre place de parent, si on imagine que ce qu'on peut apprendre à nos enfants est forcément quelque chose de douloureux, néfaste, pas bon. Et donc on évite cette souffrance aux enfants qui, eux, évitent la souffrance de nous obliger à en parler. Et donc il y a une espèce de silence autour de l'histoire de la migration qui, à certains moments, on va bloquer, les sujets dans leur... j'allais dire, dans leur investissement de la société d'accueil. Parce que, ça c'est quand Odile disait, tu tords le cou. Ah, effectivement, pendant longtemps, on a cru, il y a encore des théoriciens qui peuvent penser que plus on parle, si on parle de l'histoire de la famille, si on parle de l'histoire de la migration, si on parle du pays d'origine, ça empêche le sujet de s'installer dans le pays d'accueil. Or, moi, j'ai pu observer dans ce travail pendant 4-5 ans auprès de certaines familles qui n'étaient pas des familles qui venaient en consultation. Hein, c'était des familles qui avaient vécu l'événement migratoire, mais qui n'étaient pas forcément en demande de soins. Que les familles où, pour lesquelles la question de la transmission était... parler, c'est-à-dire l'histoire de la migration faisait partie de leur histoire, et donc où il y avait un lien entre l'histoire laissée au pays, l'histoire de la famille laissée au pays, restée au pays, et l'histoire de cette famille qui se construit dans un autre pays, quand il y a un lien entre ça, entre ces deux mondes, qu'il n'y a pas, la migration ne représente pas qu'une rupture entre ces deux univers, quand le migrant n'a pas l'impression que dans la frontière, il doit laisser tout ce qui venait de son pays, de son histoire, de sa culture, pour créer une nouvelle vie là, comme si on pouvait vivre sans racines. On observe que les enfants peuvent mieux investir la culture du pays d'accueil sans avoir la crainte de trahir, de tromper, de ne pas être loyal envers leurs parents, et envers leur appartenance, finalement, aussi. Alors, peut-être que je veux dire un tout petit peu sur l'approche systémique par rapport à ça. Alors, c'est vrai que l'idée de ce travail de thèse, il est né comme ça. J'étais très interpellée par cette question de la culture, et dans les familles que je suivais, j'avais l'impression qu'on n'arrivait pas à comprendre, à capter certains éléments par rapport à la culture, enfin, certains éléments de leur demande, pardon, de leur demande, et que peut-être que ça pouvait être lié à la culture. C'est-à-dire que c'est comme si j'avais l'impression qu'on leur imposait une logique thérapeutique française, puisqu'ils m'assimilaient française, où il n'y avait pas de place pour une autre... un autre regard, en fait, un autre regard par le biais de la culture. Et donc, c'est vrai que c'est aussi quelque chose de très intéressant par rapport à l'approche systémique, où je n'avais rien trouvé, rien. Et j'avais questionné plusieurs systémiciens qui ont participé et qui ont contribué à la construction de l'approche systémique, le développement de cette modalité, de cette discipline, enfin, modalité en psychologie. Alors que beaucoup d'entre eux avaient migré eux-mêmes, il y a beaucoup, beaucoup de systémiciens qui ont migré, la question de la culture a été souvent évancée par rapport au détriment d'une question, enfin par rapport à une question qui était pour eux très importante, c'est nous avons plus de similitudes que de différences, donc on va travailler sur la question de similitudes. Or, ces différences-là sont des différences qui peuvent devenir, à mon sens, des atouts, des avantages dans la vie du sujet, quand on n'essaie pas de les gommer, de faire en sorte qu'elles deviennent des similitudes. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est la solution d'un moment donné qui devient un problème aujourd'hui, cette idée de tous égaux. Cette idée de tous égaux était sans doute une solution à un moment donné, mais aujourd'hui, je crois que ça nous pose problème.
Alors, c'est cet délicat équilibre entre entendre les spécificités, voir les différences, et en même temps, rester attentif à la qualité fondamentale, des qualités qui font que l'autre est un alter ego aussi. Donc c'est tout ce jeu, en d'autres termes, ne pas enfermer l'autre dans ses différences, mais pouvoir entendre les différences.
Ah oui. Il ne s'agit pas d'être dans une logique culturocentrique. Là, l'autre jour, quelqu'un m'a amené une supervision en me disant « Ah là là, vous allez être très contente, j'ai une famille à vous présenter. » Donc c'est une psychologue qui fait un suivi d'une famille et qui amène la situation qui lui pose problème pour qu'on travaille ensemble, pour qu'on discute, de façon à peut-être l'aider à débloquer certaines choses. Donc c'est une équipe qui vient de la Dordogne pour une supervision avec moi, donc trois psychologues. Donc celle qui présente dit « Vous allez être très contente, vous verrez, c'est une situation interculturelle, ça va vous plaire. » Et donc on commence à travailler sur la situation, elle m'explique. Et je disais « Mais là, je pense que vous avez plusieurs problèmes, enfin plusieurs axes de travail. » Et je pense que la question de la culture, il faut la laisser du côté et qu'on va travailler ça bien après avoir travaillé la question du couple, la question de la parentalité, comment ils s'y positionnent en tant que parents, comment ils vont pouvoir être auprès de leurs enfants en étant des parents qui se sentent des parents. Donc, vous voyez, ce n'est pas du tout l'idée de les gens... Je ne suis pas frileuse de « tiens, c'est des gens d'autres origines et je suis dans une situation interculturelle pour travailler, c'est le pied ». Absolument pas. Par contre, par exemple, je pense à une autre supervision de quelqu'un qui vient... C'était pas une supervision, pardon. C'était dans la formation, donc je suis formatrice à l'Institut d'études systémiques, donc je forme des professionnels à devenir des thérapeutes de famille et de couple. Et je faisais une journée de formation où j'ai présenté justement le livre, donc le matin et l'après-midi, chacun amenait des... Enfin, on travaillait sur une situation. Donc une psychologue amène une situation qui lui pose problème, donc c'est pas dans le cadre d'une supervision, mais ça fait un effet de supervision, donc elle amène et elle me commence à parler en disant « J'étais très gênée de présenter cette situation, mais je pense que ça va être très important pour moi de la présenter, parce qu'en fait... ça fait plusieurs mois que je suis cette petite fille, je suis en difficulté avec elle et sa famille et je ne me suis jamais posé la question de la culture. Or, elle est une maman qui vient du Mali. En fait, je sais plein de choses sur la famille du père, je ne sais rien sur la famille de la mère, je ne sais rien sur à quel âge cette mère est arrivée ici, comment ça se passe, les relations entre elle et ses enfants. Je ne sais rien. Tout ce qui traite la culture, je ne sais pas. Et elle disait de cette petite fille, donc après elle disait, donc voilà, c'est une petite fille un peu inhibée et tout ça. Elle faisait une description, elle disait très peu curieuse. Je me disais que c'était un manque de curiosité qui contaminait, parce que du coup, ma collègue était aussi très peu curieuse sur la vie et l'histoire de cette famille, et que ce n'était pas un hasard, puisque c'est quand même quelqu'un de très fin, qui travaille, je pense, très bien auprès des familles. Et je me disais que quelquefois, dans les familles, il y a une espèce de non-dit comme ça, c'est-à-dire, c'est pas la peine. Et si on écoute juste ce pas la peine-là et qu'on se plie à ce pas la peine et qu'on ne laisse pas la possibilité d'une transgression par rapport à ce pas la peine, on perd l'occasion, on rate l'occasion d'être justement à l'écoute des gens dans ce qu'ils ont de leur complexité. Et là, c'est pas vraiment intéressant.
Oui.
Donc c'est pas une histoire d'être culturocentrique, de travailler que avec la question de la culture, mais à certains moments, c'est dommage de faire fi de ça. Je pense que c'est un côté un peu faire fi.
Je relirai juste une phrase que je prends sur l'ouvrage. Il ne s'agit pas d'accorder la priorité au culturel sur le sujet, mais simplement de prendre aussi en compte les particularités culturelles et surtout l'histoire du patient. Alors, il y a aussi une autre dimension à propos de la culture, parce qu'on a l'impression de ramener tout sur la culture, mais il y a cette parole du patient, et la parole du patient, elle est prise aussi dans des logiques culturelles, dans des façons de s'exprimer, dans des métaphores, dans des façons de penser. Il y a aussi cette dimension-là qu'il faut pouvoir entendre, sans doute, dans la rencontre.
Oui. Le sang qui coule dans mes veines. mais c'est sûr, parce que je pense que... alors, je crois que c'est pas... On n'est pas face à son appartenance culturelle. Nous ne sommes pas égaux face à notre appartenance culturelle non plus. C'est-à-dire que selon la culture de laquelle on vient et selon les représentations sociales du pays dans lequel on vit, c'est-à-dire que je pense que c'est plus facile d'être anglais que d'être marocain en France, par exemple. Je pense que c'est plus facile d'être brésilien que d'être... maghrébin ou non, mais j'allais dire algérien, j'allais dire portugais. Et donc, je pense que du coup, on va plus ou moins camoufler, plus ou moins travestir cette appartenance. Selon aussi ce qu'on perçoit de ce que les gens attendent de nous, d'aussi ce qu'on perçoit de ce qui va être positif ou pas positif pour nous dans la façon dont on va évoluer dans cette société. Il y a une espèce de mécanisme de défense qui se met en place, qui fait qu'on se protège d'une réalité hostile, d'un regard hostile et bienveillant de l'autre. Donc, moi, je pense à un petit garçon qui disait... fils d'un Portugais qui habite, cette famille habite Paris, donc son père portugais qui était gardien de l'immeuble donc où il habite, qui disait mais moi je veux surtout pas qu'on sache que je suis portugais, parce que si je dis que je suis portugais, ils sauront le métier de mon père et je ne veux pas qu'ils sachent le métier de mon père. Donc c'est à dire que on n'évolue pas de la même façon quand on se dit des choses comme ça que quand on se dit, comme une jeune femme que j'ai pu rencontrer, qui s'est dit, à un moment donné, j'ai compris que quand je disais que j'étais brésilienne, c'était un atout pour moi. Et donc, elle est dans la communication à Paris, dans une entreprise assez puissante. Enfin, elle a un très bon poste dans la communication. Elle disait, mais quand j'étais à court d'idées, dans des dîners, de travail, tout ça, j'ai sorti ma carte... mon joker qui était, mon dernier voyage au Brésil, puisque je suis brésilienne. Donc, je crois qu'on ne se constitue pas, on évolue, on ne se construit pas de la même façon quand on se dit, ma double appartenance est un atout, est quelque chose qui attire les gens vers moi, dans quelque chose de positif, de valorisant. Et quand on se dit, ma double appartenance, c'est quelque chose qui me freine et qui m'empêche d'être dans une bonne relation avec les autres. Donc, je crois que c'est... du coup, on construit des mécanismes de défense qui sont très subtils et qui vont... c'est important pour, je pense, pour le clinicien de s'interroger sur ces mécanismes de défense-là. On passe notre temps à chercher, à gratter, à chercher des choses que le sujet n'a pas repérées, qu'on aimerait bien, ce travail un peu de détective qu'on fait quand on est dans une rencontre thérapeutique. Mais par rapport à la culture, Je pense qu'on aurait, pas mal à apprendre de ça. Mais juste quelque chose. Mais je pense qu'il y a aussi quelque chose pour cet accès à la question culturelle. C'est d'abord, il faut pouvoir faire le constat de « je suis incompétent ». C'est-à-dire que quand on est face à quelqu'un d'une autre culture qu'on ne connaît pas et qu'on veut aborder cette question-là, il faut pouvoir se dire « mais de toute façon, je ne sais pas grand-chose de cette culture, c'est que lui qui a le savoir sur cette culture-là ». Donc, il faut se mettre dans une position de celui qui accepte d'être amené, d'aller dans un terrain où il n'est pas le maître, c'est lui qui sait, l'expert, les spécialistes. Donc cette curiosité-là de l'anthropologue, qui n'est pas la même curiosité du touriste, hein. Un anthropologue, il n'arrive pas dans un pays avec les mêmes envies que le touriste. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un truc, « Ah, c'est sympa, vous faites ça, oh, c'est rigolo, c'est bien, c'est coloré. » C'est « Je veux savoir plus que ça, je ne veux pas savoir ce qu'il mange le dimanche et quelle langue il parle avec sa mère, ça ne me suffit pas. Ce que je veux savoir, c'est comment il vit cette double appartenance-là au quotidien. » Quelle place ça prend pour lui? Qu'est-ce qu'il connaît de cette histoire familiale? Comment il se sent en prise avec ça? Donc, c'est effectivement, mais pour ça, il faut que je me dise, je connais rien de ça et je prends le risque de me laisser amener par l'autre vers cette différence.
Alors, vrai pour le thérapeute, là, dont tu parlais. Mais aussi, c'est la question qui se pose pour tout un chacun dans une société. Et donc, à savoir, est-ce que la migration est une, je vais le dire carrément, une tare, quelque chose qu'on va devoir cacher, camoufler, oublier, enfouir? Ou bien, est-ce que, justement, c'est quelque chose qui peut, au contraire, être valorisé, distingué, rendre plus singulier aussi par cette expérience, personnelle, expérience héritée. La question qui va, ce qui va apparaître dans certains cas, et peut-être l'as-tu rencontré, c'est justement quand un contexte social n'entend pas ou ne veut pas entendre la question migratoire comme quelque chose de dynamique, de profond, qui perdure chez le sujet, que le sujet se construit à appuyer à cette expérience ou à cette mémoire familiale. Et donc ce contexte et le fait que les parents, du coup aussi, tu en parlais un peu tout à l'heure, réagissent en atténuant, en taisant même donc cette histoire personnelle ou familiale. Et avec, donc je disais, le risque donc que la génération suivante s'empare de cette question dans une forme beaucoup plus
violente,
revendicative,
ouais.
Violente.
Oui, je pense. Je crois que quand on réfléchit, quand on parle avec la tête, on est tous d'accord avec l'idée que c'est impossible de fermer toutes nos frontières, on ne va pas pouvoir vivre sans ce mélange, et que ce mélange est quelque chose d'intéressant, créatif, qui amène des choses. Mais je pense que c'est plus quelquefois quand on parle avec les peurs que les choses deviennent plus difficiles et plus délicate. Oui, je pense que ça a un effet, c'est-à-dire qu'une génération qui a l'impression que ses parents n'ont pas été reconnus, qu'ils ont été même rejetés, mis à l'écart, éjectés alors qu'ils ont fait des choses, qu'ils ont une place, qu'ils devraient être reconnus, je pense que c'est une génération qui grandit avec le sentiment qu'il faut se venger, qu'il faut donner aux parents ce qui leur appartient. Et qu'il y a une génération qui grandit avec une soif de reconnaissance.
De réparation.
Et de réparation, tout à fait, par rapport à la loyauté familiale, de réparation qui peut être désorganisée, qui peut être un peu déstructurée. Mais c'est vrai que comme je disais, je pense qu'on est tous quand même... c'est difficile de rencontrer quelqu'un qui n'a pas été frappé par la question de la migration, frappé dans le sens, pas dans le sens brutal du terme, mais dans le sens touché par la question de la migration. Et donc, je suis quand même assez contente, très contente même, de voir comment... j'ai des retours positifs par rapport à cette question. C'est-à-dire que les gens, ils se sentent interpellés hein, quand ils lisent le livre, quand ils en parlent, parce qu'il y a des histoires de famille qui sont racontées, qu'ils se disent « Tiens, ça m'a fait penser à moi. Tiens, ça m'a fait penser à ma grand-mère. Tiens, j'ai une amie à laquelle ça m'a fait penser. » Enfin, voilà, je crois que tout de suite, on va faire des liens et des associations par rapport à notre histoire. Et donc, je crois que ça... peut-être c'est une petite goutte dans l'océan par rapport à cette question de l'approche de l'autre, de l'approche de l'autre sans crainte et d'une plus grande comment dire tendresse, même pas tendresse mais respect, empathie. Plus grand, empathie, voilà c'est le mot, empathie par rapport au vécu migratoire. Mais je crois que ça peut avoir aussi cet effet-là, effectivement, de penser que le migrant n'est pas finalement quelqu'un de très, très différent de nous, mais qui a pu vivre des choses semblables. Parce que je pense aussi que ce n'est pas pareil d'avoir des enfants en terre d'accueil, ce n'est pas pareil que d'avoir des enfants chez soi, parce que je pense que les parents, les sujets qui ont migré, qui ont des enfants en terre d'accueil, ils sont fragilisés aussi par rapport à la parentalité et leur parentalité n'est pas soutenue sur le plan social. Quand on est parent, on s'appuie sur ce qui se passe autour de nous. Tiens, tel n'achète pas le téléphone portable à leur enfant qui a 9 ans. Alors on se dit, bon, mais nous non plus. Et on voit comment cette... Tout d'un coup, d'ailleurs, j'ai des patients qui m'avaient raconté cette histoire. Leur fils s'était mis d'accord, les copains s'étaient mis d'accord entre eux pour dire aux parents... qui a 8 ans, tous ses copains avaient des téléphones portables. Les parents disaient, ah bon ? Alors, donc, les enfants s'étaient mis d'accord en se disant, bon, je vais dire à mes parents que tes parents t'ont acheté un téléphone portable. Ils se sont dit entre eux, comme ça. Et donc, le gamin arrivait à la maison en disant, ben voilà, je suis le seul qui n'ait pas de téléphone portable. Les parents disaient, oui, mais Marco, il a... Ah oui, il a, ses parents ont acheté. Et un tel, ah oui, oui, oui. Et plus tard, et donc les parents commençaient à se dire, oui, mais si eux, ils ont acheté, alors peut-être que ça serait bien quand même qu'on achète. Pourquoi on est bloqué sur cette situation ? Ça amenait les parents à se dire, mais si eux, ils font comme ça, pourquoi on ne ferait pas aussi un peu comme eux ? Bon, après, ils se sont rendus compte lors d'un dîner que c'était des bobards, que les enfants avaient construit ça, monté ce complot contre les parents. Mais vous voyez, pour quelque chose de si anodine comme est-ce qu'on achète un téléphone portable ou pas, on s'appuie quand même sur les dires des autres, sur ce qu'ils font les autres parents. Quand ce qu'ils font les autres parents est si différent de ce qu'on aurait pu faire chez soi, chez nous, c'est vraiment très compliqué de pouvoir assumer une parentalité. Et après, donc, certains migrants vont être accusés de laisser tomber leur enfant. Mais à un moment donné, ils sont dans une position, ils se disent, c'est pas nous les experts, c'est pas nous qui savons. Donc occupez-vous de nos enfants, parce que vous savez mieux que nous, vous savez comment on fait ici. Donc c'est quand même quelque chose d'un peu restauré.
Il y aura une autre question qui pourrait être aussi développée, mais nous ne la développerons pas, c'est la question de la langue. Justement, dans cette fragilité parentale, la question de la langue et comment les parents peuvent... exprimer sur la langue.
Je pense que c'est quand même très important la question de pouvoir s'exprimer dans sa langue d'origine, même si je pense qu'aujourd'hui il n'y a plus de les spécialistes, même à l'école on est moins, enfin, les spécialistes sont d'accord pour dire que c'est important que les enfants parlent une autre langue, en tout cas que ça n'empêche pas, ça ne les empêche pas d'apprendre une autre langue, c'est-à-dire qu'ils peuvent apprendre plusieurs langues en même temps, que ça ne les empêche pas en tout cas d'apprendre le français s'ils parlent une autre langue à la maison. Mais on ressent encore toute la crainte et tout toutes les angoisses autour de cette question de l'apprentissage de la langue.
Oui.
Moi, j'aime bien raconter des histoires, donc je raconterai bien une petite histoire rapidement, en me disant, parce que je pense que ça va être illustratif. Donc, je pense à l'histoire d'une petite fille donc, qui vient en consultation pour une autre question, qui cette question de l'apprentissage, et qui donc est au CP, qui avait appris, enfin, qui est au CM2, je crois, qui avait appris à lire, CP, après le CP, c'est le CE1, qui avait appris à lire sans problème, aucun souci, et que, donc, sa mère est prof de langue dans un lycée. Et donc, elle rencontre la maîtresse de sa fille. Donc, sa fille avait appris à lire sans problème. Et elle rencontre la maîtresse de sa fille qui dit « Je sais pas, est-ce que vous avez commencé à apprendre l'espagnol à votre fille ? Parce que je trouve que là, ça va moins bien. » Et la dame dit « Mais par rapport à la lecture, pourtant, elle sait lire. Je sais qu'elle sait lire. » Et la maîtresse dit « Oui, mais... je trouve, c'est vrai qu'elle sait lire, mais je trouve là qu'elle bafouille sur certains mots et je me suis posé la question si c'était pas parce que vous étiez espagnole, vous êtes prof et que peut-être que vous vouliez lui apprendre à lire et écrire. » Et donc cette dame arrive à la consultation très déstabilisée en me disant « Est-ce que je dois continuer à lui parler en espagnol ou pas ? Dites-moi, madame. » Bon, moi, je suis toujours très inquiète de dire une bêtise. Et donc, je parlais avec elle de... on va voir comment ça se passe, peut-être qu'il s'est lié à autre chose et tout ça. Mais voyez, je me suis dit, cette dame qui a un niveau d'études élevé quand même, qui est proche de son enfant, qui est à l'écoute de son enfant, qui se met dans tous ses états quand il y a une petite remarque. Sa fille n'est pas du tout un échec scolaire, hein. On est loin, mais loin de l'échec scolaire. Imaginez-vous des parents qui sont illettrés, qui ne savent pas lire et écrire dans leur pays, qui arrivent ici et qui ne savent pas non plus lire et écrire le français, qui parlent très mal. Quand ils entendent une petite remarque comme ça, pour eux, ça veut dire tout de suite qu'il ne faut plus du tout qu'on parle notre langue. Donc, c'est sûr que quelquefois, ces blocages, ils sont liés quelquefois à des choses qui sont très anodines, mais que par rapport au vécu du sujet et tout ce qu'il porte déjà comme culpabilité et incertitude sur son appartenance, bah, ça a des effets quelquefois très radicaux. Merci beaucoup d'être venu. Merci.